Votre venue, merci de votre fidélité. Alors bien évidemment, je ne présente pas Luc, hein, qui coordonne avec moi-même et avec Philippe Hoffmann ce séminaire, mais peut-être vais-je dire deux courts mots d'introduction sur Porphyre, moins connu que vous, hein, finalement. Moins connu que vous. Porphyre, effectivement, nous n'en avons guère parlé jusqu'à maintenant, sans doute parce que son rôle dans la constitution des notions fondamentales du néoplatonisme, hein, je vous rappelle que c'était le thème de l'année dernière, est moins important que son rôle dans la transmission et dans la circulation. Et effectivement, le thème de cette année est plus propice à ce genre d'études. Il est vrai aussi que l'historiographie contemporaine sur Porphyre a singulièrement modifié l'image qu'on pouvait en avoir. Il y a quelques générations, Porphyre apparaissait comme un architecte, et aujourd'hui on en a fait un pontonnier, l'architecte des Énéades, effectivement, hein, le grand constructeur, au risque effectivement de lui donner une dimension plus dogmatique certainement qu'il ne l'avait. Et aujourd'hui, on a un peu cassé ce jouet des Énéades, hein, avec la succession chronologique des traités. On a cassé le jouet des Énéades, mais on insiste de plus en plus sur son rôle de pont, de transmetteur entre le moyen platonisme, si ce terme a un certain sens, et le néoplatonisme d'une part, et puis entre le néoplatonisme et la tradition chrétienne. Alors, ce changement de perspective ne va pas non plus sans paradoxe. En tant qu'architecte des Énéades, il faut rappeler qu'il revient à Porphyre d'avoir fait du traité neuf, du traité qui affirme clairement la différence théologique, la pierre de fait de la construction plotinienne. C'est à lui d'avoir clairement signifié en quelque sorte le sens du platonisme à travers la différence énologique. Et puis aujourd'hui, on aurait plutôt tendance effectivement à le rapporter vers des traditions antérieures, je parlais du moyen platonisme, voire à lui attribuer, je pense à ce fameux texte dit l'anonyme de Turin, à lui attribuer un commentaire au Parménide où la question de la différence énologique disparaît, puisque cet un est assimilé à l'être dans ce commentaire, et l'être lui-même à l'acte pur, energei kataron. Donc vous voyez, un auteur extrêmement problématique dont les perspectives se sont modifiées en quelques dizaines d'années, et Luc est certainement le mieux à même pour nous expliquer toutes ces questions et tous ces enjeux. Nous vous écoutons, Luc. Oui.
Merci beaucoup. Donc, j'ai essayé de vous présenter ce personnage très très complexe qui est Porphyre, et que je considère comme le commis voyageur du néoplatonisme, un peu comme Paul était le commis voyageur du christianisme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès au niveau de la communication pour transmettre la philosophie de Platon et le néoplatonisme, d'une part dans le monde grec, mais aussi dans le monde latin, et par conséquent dans le christianisme et dans le monde arabe aussi. Je vous renvoie sur tout cela dans ce que je considère comme la meilleure présentation du personnage et de son œuvre au Dictionnaire des philosophes antiques édité par Richard Goulet. C'est le tome 5 qui a été publié en 2012 et sous l'entrée Porphyre, c'est de la page 1289 à 1468. Donc ça fait pratiquement 200 pages et on a là une bibliographie pratiquement complète jusqu'en 2012. Ça a été fait par différents auteurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est si rigoureux et si bien présenté. Donc je pense que l'autre notice remarquable dans le dictionnaire de Richard, c'est le Proclus, qui a été fait par Segond et Luna, et Concetta Luna. Mais là, le Porphyre, quand même, vous avez beaucoup, enfin, l'essentiel de l'information concernant donc Porphyre. Je vous ai fait distribuer un exemplier. Donc sur la première page, vous avez une chronologie que je vais expliquer en les rapportant à des textes de la vie de Plotin qui ne sont pas lus habituellement. Ensuite, vous avez une courte bibliographie, mais pour une bibliographie complète et rigoureuse, je vous renvoie à Richard. C'est là où vous avez pratiquement tout. Ici, c'est un choix. Donc, ça, c'est la première page. Les pages 2 et 3, c'est les textes concernant donc Porphyre et le contexte dans lequel il évolue. Et sur la quatrième page, vous avez donc la table des matières du recueil de fragments par Smith, recueil des fragments de Porphyre, et il vous donne une bonne idée, fait sur trois pages, il vous donne une bonne idée de la production de Porphyre sur différents sujets. Je ne vais pas m'y attarder, mais ça peut être intéressant pour vous. Donc, je commence donc cet exposé. Ma stratégie, c'est d'abord de parler du personnage et de son contexte. Et dans un deuxième moment, je parlerai essentiellement de son œuvre, que je mets entre guillemets. Donc, je commence par le personnage et son contexte. Je voudrais donc commencer par insister sur le fait, et vous allez voir que ça correspond tout à fait à la réalité telle qu'elle est décrite dans la vie de Plotin. Je vais commencer par relier Porphyre au moyen platonisme. Comme j'ai essayé de vous le dire, avec Antiochus d'Ascalon et tous les problèmes qui se sont posés à l'école platonicienne, à l'académie, l'académie disparaît d'Athènes et elle va essaimer tout le tour de la Méditerranée. Et donc, comme vous allez le voir, les gens dont je parle ne sont pas d'Athènes, mais sont d'Égypte et de Syrie essentiellement. Et donc, ça, c'est la première chose. L'école platonicienne n'a plus son lieu privilégié à Athènes. Et deuxième chose, Platon, chez les médioplatoniciens, est associé à Pythagore. Et donc, quand on parle de Platon, on parle de Pythagore. Et donc, je vous relis un texte que vous avez lu quand je vous ai présenté le médioplatonisme. C'est un fragment de Numénius, le fragment 24, Numénius qui était d'Apamin. Et Apamin qui est à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Hama, en Syrie. Et donc voilà ce qu'on trouve dans ce fragment 24, qui est une critique de la nouvelle académie. Donc, d'ailleurs, sur les autres points, en éliminant certaines idées et en torturant d'autres, les membres de la nouvelle académie ne s'enterrent pas à l'héritage primitif, c'est-à-dire celui de Platon. Partant de là, ils ne tardèrent pas, plus ou moins vite, à se diviser de propos délibérés ou à leur insu, parfois même pour une autre raison, peut-être non démuée d'ambition. Platon, lui, pythagorisait. C'est le texte que vous avez au début de la page 2. Platon, lui, pythagorisait. Pythagorizen. Il savait bien que Socrate n'avait pas eu d'autres sources pour tenir ce même propos et qu'il avait parlé en connaissance de cause. Bien avant eux, les disciples de Socrate s'étaient retrouvés dans la même situation en donnant des discours de ce dernier, des interprétations différentes. D'un côté Aristippe, d'un autre Antisthène, d'un autre les gens de Mégare et ceux d'Érythrée, et d'autres encore avec eux. Voici la cause de ce désaccord. Alors que Socrate posait qu'il y avait trois dieux, c'est un renvoi, une référence à la lettre 2 de Platon, la lettre attribuée à Platon, pardon, elle n'est pas de Platon, et en tirait un enseignement philosophique en suivant l'ordre qui convient, ses auditeurs ne comprenaient pas et pensaient qu'il disait tout cela au petit bonheur et qu'au vent de la fortune qui apporte la victoire, il allait tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, au gré du vent. Donc c'est dans ce cadre que se situe Porphyre. Porphyre qui est le disciple d'abord de Longin. Longin, ce n'est pas celui qui, ce n'est pas l'auteur du traité sur le sublime. Le traité sur le sublime a été attribué à Longin parce que la première page du manuscrit est abîmée et qu'on a cru voir le nom de Longin apparaître, mais l'auteur du traité sur le sublime n'est pas Cassius Longin. Cassius Longin, c'est quelqu'un qui est né en Syrie, à Emmaüs, Homs maintenant, et donc il est né au début du, aux alentours de 200 de notre ère. Et donc Longin est d'abord un orateur, parce qu'il était de la famille de l'orateur Fronton, très connu à l'époque, mais c'est quelqu'un qui s'intéressait à la philosophie et qui, comme on va le voir, va être un condisciple de Longin à Alexandrie, chez Ammonius. Dit Saccas, encore une fois, je n'aime pas utiliser ce qualificatif parce qu'on ne sait pas ce que ça signifie et très probablement c'est une faute de la Souda, la fameuse encyclopédie byzantine du XIe siècle. Donc, naissance de Longin à Homs aux alentours de 200. Quelques années plus tard, naissance de Platin, à Lycopolis, c'est maintenant Assiout, en Haute-Égypte, Assiout sur le Nil, il y a des écluses maintenant là. Et donc, Platin naît en 205 à Lycopolis, en Égypte, et entre 232 et 243, pendant 11 ans, Platin va se trouver chez Ammonius dans son école à Alexandrie. Et il va s'y retrouver avec d'autres personnages que j'avais nommés, qui sont nommés, je veux dire, dans le chapitre 3 de la vie de Platin que je vais vous lire, là, qui est sur le deuxième texte sur la deuxième page. Et donc, chez Ammonius, Platin va être condisciple de Longin. Donc je vous lis le chapitre 3, parce que je pense qu'il est très intéressant pour comprendre la suite. Alors que Platin était dans sa 28e année, il se lança dans la philosophie et mis en relation avec les célébrités d'alors à Alexandrie, il sortait de leur cours abattu et plein de tristesse, si bien qu'il confia à l'un de ses amis ce qu'il éprouvait. Donc je vous lis le chapitre 3 de la vie de Platin, qui est le deuxième texte sur la deuxième page. Ce dernier, qui avait compris ce que souhaitait son âme, amena Platin chez Ammonius, dont il n'avait pas encore suivi l'enseignement. Platin se rendit chez Ammonius, l'écouta et dit à son compagnon, « C'est lui que je cherchais. » De ce jour, il resta sans interruption auprès d'Ammonius et il acquit une si bonne formation en philosophie qu'il chercha à s'initier à la philosophie pratiquée chez les Perses et à celle qui était en honneur chez les Indiens. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, dans l'Empire romain, il était très chic de s'informer de la philosophie en pratique très pratiquée chez les Perses et chez les Indiens. Lorsque l'empereur Gordien partit en campagne, Gordien, c'est un empereur qui n'a pas régné très très longtemps, qui a régné de 238 à 244, et c'était une famille qui avait maté une rébellion en Tunisie et en Libye. Donc c'est des gens qui sont
d'Afrique
du Nord. Et donc, encore une fois, je pense que c'est très important d'insister sur le sujet. Donc, lorsque l'empereur Gordien partit en campagne contre les Perses, il se fit admettre, Plotin se fit admettre dans sa suite, il fit route avec elle. Il était déjà dans sa 39e année, car il avait passé en tout 11 ans à suivre l'enseignement de Monius. Mais quand Gordien trouva la mort en Mésopotamie, on ne sait pas s'il a été tué au combat ou s'il a été assassiné. Je pense qu'il a été assassiné puisque Plotin est obligé de fuir. Mais quand Gordien trouva la mort en Mésopotamie, Plotin, non sans peine, réussit à s'enfuir et trouva refuge en Antioche. Puis lorsque Philippe, c'est Philippe dit, l'arabe, qui a été un très bon empereur d'ailleurs, de 244 à 249. Lorsque Philippe devint empereur, Plotin, alors âgé de 40 ans, vint à Rome. Hérénius, Origène et Plotin, Hérénius et Origène, on ne sait pas si c'est d'origine chrétienne. Il y a un très bon article de Richard Goulet sur le sujet. Moi, j'hésite beaucoup à penser que c'est le chrétien. Encore une fois, je laisse ça ouvert. Lorsque, donc, il vint à Rome, Hérénius et Origène et Plotin s'étaient interdits par un pacte de ne révéler aucune des doctrines qu'Ammonius leur avait exposées dans ses cours. Comme les autres, Plotin tint parole. Il donnait bien des cours à ceux qui se présentaient, mais il gardait secrète les doctrines qui venaient d'Ammonius. Hérénius le premier rompit le pacte, puis Origène suivit ses traces. Pourtant, ce dernier n'écrivit rien, à l'exception du traité sur les démons, et pour Galien, que le roi seul est poète. C'était probablement un truc, un discours pour flatter Gordien, parce que... suivant la lettre 2, le Basileus, le deuxième Basileus, c'est Démiurge, qui est un poète. Et Galien pensait qu'il était très fort en poésie. Plotin, lui, resta longtemps sans rien écrire, même si dans ses cours, il s'inspirait de l'enseignement d'Ammonius. Ainsi continua-t-il pendant 10 ans en tout à donner un enseignement à certains sans rien écrire. Parce que Plotin exhortait ses auditeurs à le suivre dans sa recherche, le cours était plein de désordre et de discussions superflues, comme Amélius nous l'a raconté. Amélius, en effet, se mit à fréquenter Plotin la 3e année du séjour de ce dernier à Rome, dans la 3e année du règne de Philippe l'Arabe, et comme il resta jusqu'à la 1re année du règne de Claude, c'est Claude Legault, Claude Legault, lui, il a régné de 266 à 270. Il suivit son enseignement pendant un total de 24 années. Ça, c'est Amélius. Lorsqu'il se mit à fréquenter Plotin, Amélius possédait une formation qui lui venait de l'enseignement de Lysimaque. Lysimaque était un stoïcien. Par son acharnement au travail, il surpassait tous ses condisciples. Il était allé jusqu'à recopier presque tous les ouvrages de Numénius, en faire des résumés et à apprendre par cœur la plupart d'entre eux. Il avait rédigé, à partir des cours de Plotin, des notes qu'il avait réunies en une centaine de livres, je crois, dont il fit cadeau à Hostilianus Hésicius d'Apamin, son fils adoptif. Donc, Amélius va se rendre à Apamin à la mort de Plotin. Donc, si je vous ai lu ce long texte, c'est pour vous faire apparaître plusieurs choses. Donc, premièrement, que Plotin se trouve, suit les cours d'Ammonius à la même époque que Longin. Et donc, leur évolution philosophique sera très différente, mais enfin, peu importe. Deuxièmement, que Pammonius avait une pratique qui ressemblait, qui était une pratique pythagoricienne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donnait des cours sans rien écrire et qui faisait promettre à ses disciples de ne pas révéler son enseignement. Troisième chose, Aemilius, qui était lui quelqu'un qui venait d'Italie, c'était plutôt quelqu'un qui venait de la région de Florence, un étrusque. Et donc Aemilius était un admirateur de Numenius, donc dont vous avez lu le texte au point de départ. Numenius, qui était un philosophe néo-pythagoricien, qui était obsédé par Pythagore. Donc l'influence de Pythagore dans l'école de Plotin est absolument déterminante, et on va le voir par la suite. Donc comme on le verra, donc la naissance de Porphyre se situe en 232-233. Donc pendant que Plotin est chez Ammonius, donc en 244, Plotin accompagne l'empereur dans sa guerre contre les Perses. Et donc après l'assassinat de l'empereur, Plotin s'enfuit à Rome et ouvre une école. Il réunit des disciples, donc en 246, dont Aemilius donc l'un des disciples prédominants, et donc on peut considérer qu'Aemilius est l'assistant de Plotin. Et donc Plotin, comme son maître Ammonius, continue de donner un enseignement moral, oral jusqu'en 254. Jusqu'en 254, il n'écrit pas. Donc, et en revanche, à partir de 254 jusqu'à l'arrivée de Porphyre à l'école, Plotin a écrit 21 traités. Donc je vous lis un deuxième texte la vie de Plotin concernant justement la pratique de Plotin dans ses cours. De Longin, parce que De Longin, Porphyre dans sa vie de Plotin cite une préface de Longin où Longin parle de Plotin. Donc c'est le deuxième texte sur votre deuxième page. De Longin, il faut encore citer ce que dans son traité il écrivit sur Plotin, Aemilius et les philosophes de son époque, pour faire connaître dans son intégralité le jugement que portait sur eux un critique si réputé et si sévère. Ce livre de Longin est dédié à Plotin et à Chantillanus Aemilius, et il a pour titre « Sur la fin ». En voici la préface. C'est une citation de Porphyre. « Parmi les nombreux philosophes, mon saint Marcellus, qui ont vécu à mon époque, et tout particulièrement dans les premières années, de ma vie, on ne saurait dire combien les philosophes sont devenus rares à présent, tandis que quand j'étais encore un adolescent, ils n'étaient pas peu nombreux, ceux qui présidaient au discours de la philosophie, eux qu'il m'a été donné de connaître, tous grâce au séjour que, depuis mon enfance, j'ai fait en bien des endroits avec mes parents, et que, pour ceux qui étaient encore en vie, je fréquentais, en me rendant pour cette même raison, en un grand nombre de pays et de cités. Parmi ces philosophes, donc, les uns prirent d'exposer par écrit leurs opinions pour permettre à ceux qui viendraient après eux d'en tirer profit, tandis que les autres estimaient qu'il leur suffisait de faire progresser leur auditeur dans la compréhension de leur doctrine. Dans le second groupe, on trouve les platoniciens, Ammonius et Origène, donc les condisciples de Plotin Ammonius et Origène, donc son maître et son condisciple, auprès desquels j'ai étudié le plus longtemps des hommes qui l'emportaient de beaucoup sur leurs contemporains en pénétration. Donc, dans le premier texte, c'est Plotin chez Aemilius, et dans le second texte, c'est Longin chez Ammonius. Donc, je passe au troisième texte de la deuxième page, où là, on voit arriver Porphyre à l'école de Platon. Et immédiatement, il va y avoir un problème qui va se poser, et un problème qui est très... est un excellent exemple de la confrontation entre le médioplatonisme et le néoplatonisme. Donc, c'est le dernier texte de la page 2, c'est dans le chapitre 4. Donc, Porphyre arrive chez Platon en 263 et il va le quitter en 268. Donc, il ne reste pas longtemps. Et voilà ce que nous dit Porphyre. Dans la dixième année du règne de Galien, Galien a régné de 260 à 268, mais il était empereur avec son père Valérien depuis 253. Donc, la décennie de Galien, c'était en 263. Donc, cela dit, Galien s'était mal comporté à l'égard de son père parce qu'il l'avait laissé prisonnier des Perses et il a pris sa place comme empereur donc en 260. Donc, dans la dixième année du règne de Galien, moi, Porphyre, qui, en compagnie d'Antoine de Rhodes, on ne connaît pas ce personnage, arrivait de Grèce, c'est-à-dire d'Athènes, où enseignait Longin, puisque Porphyre était à l'école de Longin. Et donc, Longin, dans une partie de la journée, enseignait la rhétorique et dans l'autre partie, enseignait la philosophie. Je rencontrais Amélius. Bien qu'il en fût à sa 18e année dans l'école de Platon, il n'avait encore rien osé écrire, si ce n'est ses notes de cours, réunies en des livres dont le nombre n'avait pas encore atteint la centaine. Platon, lui, dans la dixième année du règne de Galien, avait environ 59 ans. Moi, Porphyre, quand, pour la première fois, je fus admis à suivre ses cours, j'avais alors 30 ans. En fait, c'est à partir de la première année du règne de Galien que Platon s'était mis à écrire sur les sujets qui se présentait. Vous voyez, donc, Platon a commencé pendant une dizaine d'années à donner des cours sans rien écrire. Donc, c'est la première année du règne de Galien. Donc, si on regarde... donc, c'est la première année du règne de Galien que, pour la première fois... En fait, c'est à partir de la première année du règne de Galien que Platon s'était mis à écrire sur les sujets qui se présentaient, et la dixième année du règne de Galien, quand pour la première fois je fus admis à le fréquenter, je découvris qu'il avait écrit 21 livres, dont je le constate, la communication était réservée à un petit nombre. La communication, en effet, n'en était pas encore facile, elle ne se faisait pas dans un climat de confiance, avec simplicité et facilité, mais une fois soigneusement choisis ceux qui les recevaient. Voici la liste de ces écrits qui, parce que Platon ne leur avait pas donné de titre, en recevaient un différent pour chaque lecteur. Donc, encore une fois, on a une preuve de l'atmosphère pythagoricienne de l'école de Platon. Platon, pendant une dizaine d'années, se refuse à écrire, et ensuite il écrit, mais ses livres sont réservés à des disciples confirmés. Donc on se trouve dans une atmosphère de secret pythagoricien. Donc, au chapitre 18, Porphyre nous décrit son arrivée chez Platon et la première polémique. Et donc, c'est très intéressant par ailleurs. Donc, c'est le premier texte de la page 3. Dans ses cours, Platon donnait l'impression de converser et il ne se pressait pas pour dévoiler à ses auditeurs l'enchaînement des raisonnements contraignants qui étaient à la base de son discours. C'est bien une impression semblable que moi, Porphyre, j'eus quand je commençais à suivre ses cours. C'est ce qui explique que j'écrivis une réfutation où je m'opposais à lui en tentant de montrer que l'intelligence subsiste hors de l'intellect. Il en fit donner lecture par Amélius et la lecture terminée, Plotin dit en souriant, « C'est toi, Amélius, qui devrais résoudre les difficultés dans lesquelles il est tombé parce qu'il ne comprend pas notre position. » Après qu'Amélius eut écrit un livre qui n'était pas court, contre les difficultés soulevées par Porphyre, et qu'à mon tour, je répondis par un écrit, et après qu'Amélius eut encore répondu à cette réfutation, moi, Porphyre, après avoir dans un troisième temps compris non sans difficulté ce qui en était, je changeai d'avis et j'écrivis une rétractation que je lus durant le cours. C'est à partir de ce moment que, me faisant confiance, on me donna accès au livre de Plotin. J'amenai le maître à mettre beaucoup de soin, à marquer nettement les articulations de cette doctrine et à les développer par écrit. Je donnai même à Amélius le désir de composer des écrits. Donc ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est premièrement, et c'est la raison pour laquelle on a procédé ainsi dans la traduction de GF, que les cours de Plotin n'étaient pas des exposés suivis. C'était des discussions avec les gens qui étaient ses auditeurs. Bon, c'est différent selon les traités. Il y a des traités qui sont vraiment des discussions. Par exemple, les traités 27, 28, c'est évidemment une discussion, me semble-t-il, avec Porphyre sur la question de l'âme. Il y a d'autres traités qui sont plus des exposés suivis. Mais en gros, l'essentiel de l'enseignement de Plotin était un enseignement dialogué. C'est un peu comme les dialogues de Platon. C'est moins intéressant que les dialogues de Platon puisque c'était que des disciples, alors que Platon, c'est les gens de la rue et il y a vraiment un certain suspense, alors que chez Platon, c'est une discussion avec des disciples. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Porphyre essaie toujours de se mettre en évidence. Et donc, c'est moi, Porphyre, je pense, dans la vie de Plotin, c'est moi, Porphyre, apparaît une quinzaine de fois. Je ne sais pas où. On les avait comptés. Et deuxièmement, Porphyre estime que c'est lui qui a donné à Plotin le goût, non seulement d'écrire, mais d'écrire en articulant sa pensée. Donc il se revendique, et puis en plus, il essaie de dire que c'est lui qui a amené Amélius à écrire, alors qu'en fait il détestait Amélius, et on le voit, et donc il le prenait pour quelqu'un qui passait son temps dans les temples et qui parlait beaucoup sans trop savoir de quoi il parlait. Et donc, je continue avec le texte, le petit texte qui suit, pour bien montrer à quel point il est important de comprendre que les cours de Plotin étaient des dialogues. C'est dans le chapitre 13. En tout cas, alors que moi, Porphyre, je l'interrogeais sur la façon dont l'âme était unie au corps, Plotin poursuivit son exposé 3 jours d'affilée. Et donc, moi, je pense que ça pourrait bien être les traités 27-28. Si bien qu'à un auditeur du nom de Thomasius, un fonctionnaire des finances, qui voulait l'entendre parler sur des textes, et qui ne supportait pas que Porphyre répondît et interrogea, Plotin déclara, « Mais si nous n'apportons pas de solution au problème que soulève Porphyre dans ses questions, nous ne pourrons absolument rien dire sur le texte. » Et donc, encore une fois, c'est, me semble-t-il, une preuve de la discussion, enfin, du fait que les cours de Plotin étaient essentiellement des dialogues. quand Porphyre arrive, il y a 21 traités qui sont écrits. Et pendant les 5 ans de la présence de Porphyre chez Plotin. Plotin va écrire 24 traités. Donc c'est le texte suivant, dans le chapitre 5. Puis, pendant que je fus auprès de lui, cette année-là et les 5 années qui suivirent, moi, Porphyre, toujours moi, Porphyre, ego Porphyrios, j'étais arrivé à Rome un peu avant les fêtes du 10e anniversaire du règne de Galien, au moment où Plotin prenait ses vacances d'été, même s'il continuait de dispenser son enseignement d'une autre manière. Pendant ces 6 années-là, donc, comme on procède dans les cours à l'examen de plusieurs questions et qu'Amélius et moi lui demandons d'écrire, Plotin rédige 24 traités. Donc, encore une fois, Porphyre ne passe que 5 années chez Plotin, et pendant ces 5 années, il se vante d'avoir amené Plotin à écrire 24 traités, pratiquement la moitié, presque la moitié de sa production. Donc presque la moitié de sa production. Je continue avec les cours de Plotin, parce que ça va être très important pour comprendre la production de Porphyre par la suite. Mais avant de continuer, j'ai oublié de dire au commencement donc, que Porphyre est né à Tyr, donc au Liban, que son nom était Malchos, Malik, et que Longin lui a donné comme surnom Porphyrios, parce que Malchos en arabe, enfin en araméen plutôt, signifie roi, et Porphyrios c'était le nom du coquillage dont on tirait une teinture rouge qui était celle des vêtements royaux. Et donc on passe de Malchos à Porphyrios. Et dans les écoles philosophiques à l'époque, c'était un peu comme dans les chez les religieux, dans les par exemple chez les dominicains, quand on entre chez les dominicains, on garde son prénom, mais on reçoit un autre prénom qui correspond à une nouvelle vie dans une communauté. Et donc c'est pour ça que le père Safré, son nom c'est Henri Safré, et son nom de religieux c'est Dominique, Henri Dominique Safré, et André Jean Pestuvière aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne met pas de tiré entre les deux, habituellement. Donc, Porphyre est chez Plotin de 263 à 268. Et à ce moment-là, les cours de Plotin sont fréquentés par des chrétiens, qui sont des gnostiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'orthodoxie. Et donc, je vous lis ce texte qui est le 1, 2, 3, le quatrième sur la page 3, c'est le chapitre 16 en son entier. Et vous allez voir que ça a une importance pour comprendre la production de Porphyre. À l'époque où vivait Plotin, il y avait beaucoup de chrétiens, dont certains qui avaient été des philosophes formés à l'école des anciens, ça veut dire des platoniciens, qui appartenaient à des sectes. Il y avait Adelphius, Aquilinus et leurs disciples qui avaient en leur possession de nombreux traités d'Alexandre de Libye, de Philocome, de Démostrate et de Lydius, et ils mettaient en avant les révélations de Zoroastre, de Sostrien, de Nicoté, d'Allogène, et de Messus et de beaucoup d'autres personnages du même genre. On a retrouvé ces traités à Nagamadi, un certain nombre de ces traités à Nagamadi, donc le témoignage de Porphyre est vérifié par des découvertes archéologiques. Ils trompaient beaucoup de gens, tout comme ils se trompaient eux-mêmes, en prétendant notamment que Platon n'avait pas eu accès à la profondeur de la réalité intelligible. On retombe toujours sur l'intelligible. Donc je n'ai pas le temps d'en parler, mais lisez l'article de Tardieu dans le deuxième tome de la vie de Plotin par Porphyre. Tardieu donne une interprétation vraiment extrêmement intéressante de ce chapitre 16. Voilà pourquoi lui-même, Plotin, réfuta en maintes occasions dans ses cours et alla jusqu'à écrire un traité, celui que nous avons intitulé « Contre les gnostiques », en nous laissant le soin de nous occuper du reste. Amélius écrivit jusqu'à 40 livres pour répliquer à la révélation de Zostrien. Encore une fois, c'est très ironique parce que ça montre que Amélius allait à la ligne en permanence et faisait des traités beaucoup trop considérables. Quant à moi, Porphyre, je fus chargé de la réfutation systématique de la révélation de Zoroastre pour montrer comment ce texte est à la fois inauthentique et récent, forgé par des fondateurs de sectes pour faire quoi? Pour faire croire qu'il venait d'un, que ces traités venaient d'une antiquité beaucoup plus profonde. Donc, 263-268, discussion de Porphyre avec Plotin sur différents sujets, et notamment une polémique au sujet des intelligibles. Discussion sur l'âme. Encore une fois, je pense que les traités 27-28 sont un témoignage de ces discussions. Et en fait, ça finit mal. Et donc, discussion avec les chrétiens aussi. Et donc, ce séjour se termine très très mal. Et donc, c'est ce qu'on trouve dans le chapitre 11 de la vie de Plotin, l'avant-dernier paragraphe, passage de notre page 3. Et quant à moi, Porphyre, il sentit un jour que je songeais à m'enlever la vie. Et quant à moi, Porphyre, Plotin sentit un jour que je songeais à m'enlever la vie. Le voici soudain devant moi, qui habitait là, c'est-à-dire dans la maison de la riche veuve. Le voici soudain devant moi qui habitait là, et il me dit que ce désir résultait d'une disposition de l'intellect, non d'une disposition de l'intellect, mais d'une maladie due à la mélancolie, et il me prescrivit de m'en aller. Je suivis son conseil et je partis pour la Sicile, car j'avais entendu dire qu'un homme de grande réputation, Probus, on ne sait pas qui c'est, vivait à Lilibée. Lilibée, c'est Marsala. Je fus enfin délivré du désir de me supprimer, mais du même coup, je fus empêché de rester auprès de Plotin jusqu'à sa mort. Donc, ça, c'est la fin du séjour de Porphyre. Donc, pour la mélancolie, je vous envoie au grand livre de Klibanski et de
Saxel. Hein? Et Klibanski, Saxel.
Et Saxel.
Et Panofsky.
Oui. Et donc c'est ça, je cherchais Panofsky, parce que je pensais à Klibanski qui enseigne à Montréal. Oui, donc il y a eu beaucoup de spéculations sur cette envie porphyrienne du suicide. Donc le père Saffré pense, et Michael nous en parlera la semaine prochaine, que c'était parce qu'il y avait une opposition très importante entre Plotin et Porphyre en ce qui concerne Aristote. Est-ce que ça peut mener au suicide? Je ne sais pas. Dans l'école, il y avait des tensions extrêmement dures entre Porphyre et Amélius. Mm. Et il faut dire aussi que Galien vient d'être assassiné. Et Platonopolis, là, que voulait fonder Plotin, ce projet disparaît parce que l'école de Plotin était protégée par la cour de l'empereur. Donc ça fait au moins trois raisons pour lesquelles Porphyre aurait voulu se suicider. Et puis en plus, Plotin était malade et il va mourir 2 ans plus tard. Donc, en 268, Plotin sauve du suicide Porphyre, qui part pour Lilibée en Sicile. Lilibée, c'est Marsala. Donc, Plotin malade quitte Rome pour la Campanie. Amélius, donc l'année suivante, en 269, ou quelques mois plus tard, donc Plotin est malade, et c'est assez affreux sa maladie, et il ne veut pas prendre de médicaments parce qu'il est végétarien strict, et que dans les médicaments il y a des morceaux de bête, donc il ne veut pas prendre de médicaments, et il est très très mal en point. Donc Amelius part pour Apamé, comme je l'ai dit, c'est une ville de Syrie à 50 km au nord-est d'Hama. Et depuis sa retraite, et donc Plotin Malade quitte Rome pour la Campanie. La Campanie, c'est dans le sud. Hein. Il va dans la grande villa d'un de ses disciples très riches. Et donc, quand il est là, Plotin envoie à Porphyre 4 traités. Et l'année suivante, en 270, il envoie à Porphyre, qui se trouve toujours en Sicile, donc il envoie d'abord 5 traités en 269 et en 270 4 traités. Et donc là, et à la fin de l'année 270, Plotin meurt. Et il est tout seul avec son médecin qui est Eustochius. Donc ça posera des problèmes pour les questions d'édition. Donc ça, Plotin meurt en 270 et il est abandonné d'une part par Porphyre qui est en Sicile et par Amelius qui est en Syrie. Et en 273, Longin, son maître, qui était le conseiller et le secrétaire de la reine Zenobie, qui avait fait sécession par rapport à Rome, donc là, la reine Zenobie essaie d'envahir l'Égypte et il est très probable que le musée d'Alexandrie a été détruit, sinon en totalité, du moins en partie, par suite des combats entre les Panhilléens et les Romains qui se trouvaient à Alexandrie. Donc en 273, la reine Zenobie est défaite et Longin est exécuté sous l'ordre de l'empereur Aurélien. Voilà, donc 273. Donc Plotin meurt en 270 et Porphyre ne va éditer les Énéades qu'en 300-301. Donc 30 ans après la mort de Plotin. Porphyre va mourir quelques années plus tard, aux alentours de 305. Et donc je vous lis le dernier passage où Porphyre nous parle de son édition des Énéades. C'est dans un des derniers chapitres de la vie de Plotin. Voilà donc achevé notre récit de la vie de Plotin. Et comme lui-même nous a confié le soin de mettre en ordre et de corriger ses traités, je lui avais promis de ce vivant de me charger de cette tâche et j'en avais pris l'engagement auprès des autres disciples. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais disons que Plotin s'arroge le droit de publier les traités de Plotin. Donc, j'ai d'abord décidé de ne pas laisser dans l'ordre chronologique ces écrits qui avaient été produits pêle-mêle. Donc, nous, chez Gagnon-Saint-Marien, on a suivi l'ordre chronologique et je vous expliquerai comment Porphyre a réuni les Énéades. Mais comme c'est un ordre systématique qui répond à des considérations idéologiques, on a préféré suivre l'ordre chronologique. Donc, j'ai d'abord décidé de ne pas laisser dans l'ordre chronologique ces écrits qui avaient été produits pêle-mêle en imitant Apollodore d'Athènes qui a rassemblé les œuvres d'Épicarme, le comique, en 10 volumes et Andronicus en GF. On a préféré garder l'ordre chronologique, même si on savait que c'est un ordre qui a été un peu tripatouillé par Porphyre, parce qu'au moins on échappait à cette idéologie néoplatonicienne qui structurait les traités en fonction d'une hiérarchie. Et donc, voilà, c'est une décision, c'est comme ça qu'on l'a justifié et assumé. Donc ça c'est les Énéades. J'ai oublié dans ma liste de vous citer les sentences de Porphyre que j'ai publiées en 2005 chez Vrin. C'est le travail de 13 ans de notre équipe
Seulement 13 ans?
Ah oui, oui.
Je pensais C'était plus,
voilà. Non, mais... Enfin, Michel, Jean-Marie, Michael ont collaboré et savent quelles étaient les tensions à l'intérieur. De...
Hein?
Et donc, on l'a repris trois fois, je crois.
Pardon? Oui, trois fois, oui.
Ouais. On a revu la traduction trois fois. Et donc, les sentences, à mon avis, mais c'est pas évident, sont une espèce de commentaire. Ce sont des commentaires plus ou moins longs de traités. Et il faut lire le très long article de Christina d'Ancona dans l'introduction, où elle met en parallèle les sentences avec les textes quotidiens. Mais c'est très intéressant de voir que dans les sentences, je ne sais pas qui est-ce qui a fait remarquer ça l'autre fois, que dans les sentences, il y a très peu de choses sur l'un. Pratiquement rien. Et l'essentiel porte sur l'intellect et sur le sens corporel. Et donc, ça va tout à fait dans le sens de la lecture porphyrienne. Et donc, je termine avec Jean Blic. Donc il y a la lettre à Nébon de Jean Blic, de Porphyre à Jean Blic. En fait, c'est une provoque de Jean Blic à l'égard de, une provoque de Porphyre à l'égard de Jean Blic, parce que Anébon, c'est un nom inventé qui est présenté comme étant un disciple égyptien fréquentant Jean Blic. On n'est même pas sûr que cet Anébon existait, il n'existait probablement pas. Et là, à travers cette lettre à Anébon de Porphyre, Porphyre attaquait Jean Blic, qui a répondu dans ce qu'on appelle maintenant les mystères d'Égypte, qui n'est pas le vrai titre. Et donc je vous signale que Alain Segond et le père Safri ont publié très récemment donc la lettre à Nébon, les mystères d'Égypte chez les Belles Lettres, et ça remplace l'édition de Desplaces qui n'était pas très bonne. Et il n'en reste pas moins que, en dépit de cette attaque violente de Porphyre, Jean Blic, c'est les partisans de Jean Blic qui ont été au point de départ, à l'origine de l'école d'Athènes, qui se termine avec Damasius en 529. Et je termine en disant qu'on retrouve chez Calcidius, on ne sait pas qui c'est pas un évêque chrétien du 4e, on ne sait pas. On trouve des longs passages qui sont inspirés de Porphyre, notamment sur les démons, sur la matière, qui sont inspirés de Porphyre. On ne sait pas comment c'est arrivé là. Et il y a Marius Victorinus aussi qui semble avoir été beaucoup influencé par Porphyre. Là, il nous reste beaucoup de textes qui ont été analysés par Ado. Et donc, c'est probablement à travers Marius Victorinus que c'est passé à Augustin. Et Porphyre a eu, et dans le monde musulman aussi, mais je ne connais pas très très bien, donc je n'en parle pas. Je vous renvoie à la dernière section de la notice Porphyre chez Richard dans le dictionnaire de philosophie antique, où là c'est bien développé par des gens qui s'y connaissent, notamment par Christine d'Ancona. Et voilà, donc je pense que j'espère que je n'ai pas été trop confus, mais il y a tellement de livres. Et donc Michael la prochaine fois parlera de relations Porphyre Aristote qui ont été déterminants dans l'histoire de la philo. C'est absolument déterminant. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à ce que Michael parle de ce sujet.
Merci Luc. Merci d'avoir décrit la dure condition du disciple.
Le péripatéticien qui a réuni en traité les écrits d'Aristote et de Théophraste fait procéder de la façon suivante. Me retrouvant avec 54 traités de Plotin, je les ai répartis en 6 énéades. ravi d'associer à la perfection du nombre 6 le nombre 9. Donc, encore une fois, c'est typiquement pythagoricien. Chez les pythagoriciens, il y a le nombre 2 et le nombre 3, qui sont les deux premiers nombres, après 1, qui n'est pas un nombre, mais qui est la monade. Donc, les Sénéades, c'est 2 multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3. Donc, c'est typiquement pythagoricien, c'est de la numérologie pythagoricienne. Et je les ai réunis en donnant la première place aux questions les plus faciles. Donc, quand on regarde l'édition des Sénéades, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, il y a un certain nombre de traités qui ont été charcutés, notamment les traités 27-28. Le traité 27 s'arrête au milieu d'une phrase qui continue au traité 28. Enfin, peu importe. Ça, c'est typique du Porphyre qui se met en évidence en permanence et qui n'hésite pas à se... se mettre en évidence. Donc là, voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne Porphyre, ses relations avec Platon et le contexte dans lequel il évolue. Et je pense que c'est très important pour comprendre son œuvre. Donc, comme je l'ai dit, Platon, c'est le médioplatonisme qui subsiste dans le néoplatonisme, comme on le verra. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, me semble-t-il, le premier à injecter dans le néoplatonisme une bonne dose de pythagorisme. Et c'est surtout quelqu'un qui va faire connaître les Sénéades de Platon. Parce qu'il produire une édition. Et donc, il faudrait bien se mettre dans la tête que édition dans l'Antiquité ne correspond pas à édition actuellement. Une édition dans l'Antiquité, dans la deuxième tome dans la vie de Platon par Porphyre, Mario Dugoulet-Cazé l'explique bien, une édition au sens ecdocis, au sens strict du terme, c'est mettre à la disposition du public un exemplaire propre, sans trop de fautes et bien recopié. Et donc, c'est ça une édition. Mais donc, en produisant une édition des œuvres de Platon, Porphyre, donc, fait de la pub pour Platon, et c'est une pub qui va très très bien marcher, cette édition va être recopiée et traduite, ou en tout cas interprétée en langue latine. D'abord chez Chalcidius, qui a fait un commentaire de Timée de Platon, puis chez Marius Victorinus, donc on renvoie ce que Ado a écrit, et par l'intermédiaire de Marius Victorinus, en tout cas, ça va passer chez Augustin. Et donc, l'influence de Platon dans le christianisme, cette édition de Platon sera connue dans le monde arabe aussi. Et donc là, on retrouve un certain nombre d'ouvrages qui sont très différents des Sénéades de Platon, mais qui s'en inspirent et qui permettent la diffusion de cette œuvre. Donc, je donne tout d'abord quelques renseignements sur les personnes dont je viens de parler. Donc, Longin naît entre 200 et 213 à Emès, à Homs, en Syrie. Ce n'est pas l'auteur de Sur le Sublime. Il enseigne à Athènes la rhétorique et la philo, et c'est un médioplatonicien. Parce qu'il est conseiller secrétaire de la reine de Palmyre, Zénobie, il est exécuté sous l'ordre de l'empereur Aurélien en 273. Donc ça, c'est le maître de Porphyre. Le condisciple détesté de Porphyre, Amélius, naît entre 216 et 226 en Étrurie, c'est-à-dire que c'est un Étrusque. C'est un sectateur de Numenius d'Apamée, donc c'est très important pour comprendre l'influence pythagoricienne dans l'école néoplatonicienne. Et donc il va repartir en 269 à Apamée, en Syrie, la patrie de son maître Numenius. Donc il se retire à Apamée un peu avant 270. Porphyre, donc Porphyre, il naît à Tyr, donc à 70 km au sud de Beyrouth, aux alentours de 234-233. Son nom c'est Malchos, son surnom c'est Porphyre, donc Malchos le roi, Porphyre le vêtement que porte le roi. Il refoue un platan en 263. en venant directement de l'école de Longin, et donc il participe à une polémique, et donc il polémique avec Plotin sur la question des intelligibles, polémique contre les gnostiques, quitte Plotin en 268 pour la Sicile, revient à Rome ensuite pour faire des voyages, mais il ne fonde pas d'école, et ça c'est intéressant, Plotin n'a jamais eu d'école, et donc on ne sait pas très très bien quelles sont ses relations avec Chamblic, que très souvent on présente comme son disciple, mais on peut se poser beaucoup de questions sur les rapports de Porphyre avec Chamblic. À un âge avancé, et je vais en lire un long extrait, il épouse Marcella, une veuve, mère de 5 filles et de 2 garçons, et il la quitte après 10 mois de vie commune, et c'est ce qu'il explique dans la lettre à Marcella. Mais vous allez voir, c'est important pour comprendre ce que Porphyre pensait des chrétiens. Bon, le rapport avec Chamblic est très imprécis, sauf qu'il lui envoie une lettre à Annébon, qui est une lettre à laquelle répond Chamblic dans ce long traité auquel on a donné sur le mystère d'Égypte. C'est un titre tout à fait... enfin, c'est pas le titre du traité, mais enfin, c'est le titre que l'on donne habituellement. Et c'est très intéressant. Il publie les Énéades à l'âge de 68 ans. Donc, en gros, 30 ans après la mort de Plotin. C'est quand même... il faut bien se rendre compte de ça, que les Énéades ont été édités 30 ans après la mort de Plotin. Ça ne signifie pas que les traités ne circulaient pas, mais ils n'ont été réunis que 30 ans après la mort de Plotin. Et donc lui, Porphyre meurt aux alentours de 305. Chamblic, lui, naît à Chalcis vers 250. Et Chalcis, c'est près d'Alep. Et il meurt vers 330. Ils font une école à Apamée, toujours la même chose. Donc on a Numenius, Amelius, Chamblic à Apamée. Donc Michael va nous parler des relations entre Porphyre et Aristote. Et Adrien Lefebvre va nous parler de Chamblic. Si je parle de Chamblic, c'est parce que Chamblic, des disciples de Chamblic vont essaimer vers Athènes, et c'est eux qui vont fonder l'école néoplatonicienne d'Athènes. On voit encore une fois comment tout ça s'organise, c'est avec l'école néoplatonicienne d'Athènes, les platoniciens reviennent dans la cité de départ. Mais jusque-là, c'est autour de la Méditerranée que se développe. Donc là, je passe aux différents ouvrages de Porphyre, qui, à mon avis, ne peuvent s'expliquer que par son itinéraire. Donc, premièrement, les relations de Porphyre avec Pythagore. Donc, Porphyre... écrit, c'est Longin qui écrit, mais c'est Porphyre qui cite. Dans le chapitre 20 de la vie de Platon, on lit ceci. Mais ceux qui ont montré qu'ils prenaient au sérieux l'écriture comme activité, en abordant un grand nombre de problèmes et en les traitant de manière personnelle, ce sont Platon et Chantillanus Amelius. Le premier a donné des principes pythagoriciens et platoniciens, comme il les entendait, une interprétation plus claire que ses prédécesseurs, car les écrits de Numénius, de Cronius, de Moderatus, de Thrasyle sont loin de s'approcher de l'exactitude de ce que Platon a écrit sur les mêmes sujets. Donc, on voit à partir de ce petit passage que, à l'époque, Platon et Pythagore partageaient la même doctrine. Et c'est tout à fait évident, comme on peut le voir chez Porphyre. Donc Porphyre a écrit une vie de Pythagore qui est beaucoup plus concrète et vraisemblable que celle de Jean Blic. Cette vie de Pythagore devait faire partie d'une histoire de la philosophie. Et donc, je vous renvoie à la bibliographie que je vous ai donnée au point de départ. Donc, la vie de Pythagore, c'est celle qui se trouve en dernier, en 14e position, qui a été publiée par Desplace avec la lettre à Marcella, et avec un appendice sur l'histoire de la philosophie. Parce qu'il est tout à fait possible et vraisemblable, et c'est ce qu'Alain Segond explique dans cet appendice, que la vie de Pythagore faisait partie d'une histoire de la philosophie par Porphyre. Deuxième traité absolument essentiel, et moi je pense que c'est peut-être l'œuvre la plus intéressante de Porphyre, c'est le De Abstinentia. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, le sixième titre. C'est en quatre volumes. Et c'est un traité, je pense que c'est le meilleur traité qu'on peut trouver sur le végétarisme. Et c'est un traité qui explique comment l'être humain, au point de départ, ne mangeait pas de viande, il a été amené à manger de la viande, etc. etc. Et c'est très intéressant parce que dans le tome 4, il y a ce que font les Esséniens, les Juifs Esséniens, les Hindous, les Perses, etc., etc., qui, eux, se refusent à manger de la viande. Et dans les livres 2 et 3, on a une théologie, parce qu'on ne se rend pas compte que dans l'Antiquité, le sacrifice, qui était le seul culte d'État qui existait, impliquait l'abattage d'animaux et on mangeait la viande sur place. Et donc Porphyre est obligé de se justifier, de dire oui, je suis quelqu'un qui croit en la divinité, mais je refuse de manger la viande des animaux abattus durant. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est en quatre livres, ça a été publié par Bouffartig et Patillon, et j'ai fait des notes du quatrième livre sur les orphiques, les Esséniens, et tout ça. Et donc, à mon avis, ça doit être versé au dossier du pythagorisme. Et encore une fois, si vous avez l'occasion de... c'est un peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de citations, des citations notamment de Plutarque, mais c'est vraiment très intéressant. La vie de Platon aussi peut être mise dans ce contexte porphyrien, dans la mesure où, dès le point de départ, Porphyre nous dit que Platon était un végétarien, qu'il refusait même de se soigner parce qu'il y avait des morceaux de bêtes dans les médicaments. Et la vie de Platon est faite sur un schéma qui rappelle le traité des vertus dont a parlé Jean-Marie. On a aussi, et ça c'est plus intéressant, les ouvrages allégoriques produits par Porphyre. Parce que c'est intéressant parce que l'allégorie telle que pratiquée par Porphyre s'attaque à l'allégorie telle que pratiquée par les stoïciens. Les stoïciens prenaient les ouvrages des poètes et les traduisaient dans leur système, qui est un système cosmologique. Alors que pour les pythagoriciens, il y avait un accès à un autre monde. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Antre des Nymphes, qui est le troisième titre, va être publié très bientôt, une traduction commentée qui va être publiée très bientôt dans la Chevrin. Donc, se situe dans cette perspective. La même chose sur les représentations des divinités, des périagalmatones, c'est-à-dire qu'on trouve dans les statues, c'est une allégorisation des statues. Donc on trouve dans les statues des doctrines cachées, etc., etc. Et sur le Styx, c'est vraiment très intéressant aussi, parce que le Styx, c'est un fleuve souterrain dans lequel on jetait les gens qui... comment ça se dit en français, qui s'était parjuré, y compris les dieux. Parce que quand un dieu se parjure, on le foutait dans le Styx parce qu'on ne peut pas le tuer, puisque les dieux sont immortels. Et donc on avait trouvé, et encore une fois, il y a un livre de Tardieu, je ne sais plus où exactement, en Asie mineure, une espèce de cascade, dont on estimait que c'était le Styx sur la terre et pas la rivière souterraine. Donc l'Antre des Nymphes, c'est le 3, et le traité sur le Styx, il vient d'avoir une nouvelle édition avec une traduction et un commentaire en italien par Cristiano Castelletti, qui est venu travailler dans notre équipe. Donc ça, c'est pour Pythagore. Je pense que c'est très très important, cette idéologie pythagoricienne qui se retrouve dans le néoplatonisme. Encore une fois, comme je l'ai dit, on retrouve chez Porphyre tout cet aspect médio-platonicien dans le néo-platonisme. On pourrait dire beaucoup beaucoup de choses sur le sujet, mais je ne parlerai que de deux choses. D'une part, la position de Porphyre par rapport à l'un, dont Pierre a parlé, et la position de Porphyre par rapport à l'intellect intelligible. Donc par rapport à l'un, c'est dans ce fameux commentaire anonyme que Pierre Hadot a attribué à Porphyre. Moi, je pense qu'il a raison, mais encore une fois, ça reste anonyme, si on n'y peut rien. Mais je pense que Hadot a parfaitement raison de dire que c'est de Porphyre. Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières années avec un Suisse qui s'appelle Bechler, et puis un Irlandais, Canadien, Américain, Kevin Corrigan. Donc, je vous lis quelques lignes de la colonne 12. C'est un palimpseste. Ça a été découvert assez récemment. Donc, voici, Platon n'a pas l'air de tenir un double langage. Car l'un qui est au-delà de la substance et de l'étang n'est ni étang, ni substance, ni acte. Il faut plutôt dire qu'il agit, qu'il est lui-même l'agir pur, de sorte qu'il est l'être qui se trouve avant l'étang. Donc on n'a plus au-delà de l'être, c'est un être éminent. Donc, car en participant à cet être que l'autre un, c'est en participant à cet être que l'autre un reçoit de lui l'être qui découle du premier. Dès lors, l'être est double. Le premier préexiste à l'étang, tandis que le second est celui qui sort de l'un et qui est au-delà de l'étang, et qui est l'être, au sens absolu pour ainsi dire, l'idée de l'être. C'est en participant à cet un qu'un autre un a été engendré, auquel est ordonné l'être qui est transmis par le premier un. Donc cet un est au-delà de l'étang, mais pas au-delà de l'être, c'est l'être primordial, la puissance pure, etc. etc. Donc, moi, je pense que c'est un excellent exemple et c'est un point central chez Plotin, cette dissociation de l'un par rapport à l'être, alors que là, on se retrouve dans une perspective médio-platonicienne où le Père est effectivement le Dieu suprême, mais il n'est pas vraiment séparé du reste. Donc ça, et ça c'est en ce, concerne, en ce qui concerne l'intellect, on a le même, un problème très similaire, parce que, comme vous l'avez dit, pour le médio-platonisme, les formes, l'intelligible, c'est les pensées c'est les pensées du Père. Et donc, c'est un peu ce qu'on trouve ici. Porphyre se dissocie de Platon sur la question de l'un, qui n'est pas au-delà de l'être, mais qui est l'être dans sa forme suprême, et il va se dissocier de Platon sur la question de l'intelligible, qui n'est plus associé à l'intellect d'une façon indéfectible jusqu'à un certain point, mais qui va se présenter comme différent de l'intellect, parce que même si on dit que les femmes sont les pensées du Père, elles sont quand même différentes du Père. Donc chez Plotin, on ne peut pas faire la distinction entre l'intellect et l'intelligible. Et donc je vous relis ce que vous avez lu tout à l'heure. C'est bien mon impression, c'est ce que vous avez lu tout à l'heure, mais je vous le relis parce que c'est intéressant. C'est bien une impression semblable que moi, Porphyre, j'eus en commençant à suivre ses cours. C'est ce qui explique que j'écrivis une réfutation où je m'opposais à lui en tentant de montrer que l'intelligible subsiste hors de l'intellect, etc. Ils ont fait donner lecture à Milius, je répondis, puis ensuite je me suis écrasé. Bon. Donc, première chose, donc, l'orientation idéologique de Porphyre vers Pythagore. Pythagore et Platon ont une doctrine commune. Deuxième persistance du médio-platonisme dans le néo-platonisme, y compris dans l'école de Platon. Troisième chose, et ça c'est vraiment très très important, c'est le rapport de Porphyre à Aristote. Et bon, je n'ai pas le temps d'en parler, Michael en parlera la semaine prochaine. Donc on peut associer à ce sujet deux traités fondamentaux. Donc c'est d'une part l'Isagogé, l'introduction aux catégories d'Aristote. C'est mon quatrième titre. Donc c'est bon, ça a eu une influence déterminante dans le monde latin, arabe, etc. etc. Cette introduction aux catégories d'Aristote. Et là, je vous ai donné la traduction et commentaire de Alain de Libera et de Philippe Segond. Et puis ensuite, le commentaire sur les catégories dont parlera Michael la semaine prochaine. Donc c'est le titre 5. Commentaire aux catégories d'Aristote, édition critique, tradition française, à tradition et note par Richard Bodéus, qui a été publié chez Vray en 2008. C'est un très bon traité, c'est un très bon travail par Richard Bodéus. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit. Je pense que on trouve là une opposition très, très, très nette entre Plotin et Porphyre. Et Plotin s'exprime dans les traités 6.2, 6.3, 6.4, que j'ai traduit dans Garnier Flammarion. Le problème se situe au niveau du terme catégorie. Qu'est-ce que c'est qu'une catégorie? Et je pense que là, on a deux positions très, très, très nettes entre Platon et Aristote, Plotin et Porphyre. Donc, le terme catégorie doit être manié avec prudence, car il ne va pas sans ambiguïté chez Aristote lui-même. D'un point de vue idéologique, le substantif categoria dérive du thème catégorène, du verbe catégorène, formé à partir de kata plus agoreen, parler sur la place publique, parler en public. Le préverbe kata peut être plein ou vide. Lorsqu'il est plein, il indique l'accusation portée contre quelqu'un. Donc c'est le bonhomme qui arrive au tribunal et qui accuse quelqu'un, catégorène, qui est porté contre quelqu'un, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il est vide, il exprime l'action déterminée de l'activité verbale, le fait que cette activité parvient à son aboutissement. Ce second sens vide semble préférable ici, en tout cas pour Platon. Suivant cette interprétation, catégorène signifie affirmer quelque chose, d'où son emploi technique prédiqué, affirmer quelque chose de quelque chose. Considérée d'un point de vue philosophique, cette activité ne va pas de soi, car elle n'est pas simple. Elle présente une face linguistique, mais aussi une face ontologique. Dès lors, on pourrait dire que le thème catégorie manifeste la face linguistique, tandis que l'expression genre de l'être, et c'est ce qu'on trouve chez Platon, on ne trouve pas catégorie, on trouve genre de l'être, désigne la face ontologique. Voilà bien pourquoi ce qu'il appelle catégorie dans le premier volume de l'Organon, Aristote le désigne à l'aide de l'expression genre ou forme de l'être au livre D au delta de la métaphysique. Donc on trouve chez Aristote cette ambiguïté. La prédication dans l'Organon et le genre de l'être dans au livre Delta de la métaphysique. Cette ambiguïté terminologique dénonce une ambivalence au niveau de la signification. Sur quoi portent les catégories? Sur des mots ou sur les choses mêmes? Simplicius se range du côté de Porphyre, pour qui les catégories portent sur c'est une citation de Simplicius, sur les mots et les énoncés simples, en tant qu'ils désignent les êtres primitifs et simples. Mais puisqu'il traite des énoncés, il faut donc que s'y rattachent aussi les choses signifiées et les notions comprises dans cette désignation. Donc, Simplicius essaie de faire la synthèse entre les deux, puisque Simplicius est un néo-pythagoricien qui interprète Aristote. Donc, c'est, nous verrons, la position de Platon qui se restera. Dans les traités 42, 43, 44, 6, 2, 6, 3 et 6, 4, donc, le premier traité, c'est une critique d'Aristote. Et ça porte surtout sur la question de l'antérieur et du postérieur. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Le traité 43, c'est consiste à dire, pour Platon, les catégories, c'est les grands genres de l'être dans le sophisme. Donc 43, c'est essentiellement, enfin, une bonne partie de 43, c'est un commentaire du passage des sophistes sur les cinq grands genres de l'être. Et 44, c'est, on revient à une critique d'Aristote et des stoïciens, c'est les catégories dans le monde sensible. Est-ce qu'il peut y avoir des catégories dans le monde sensible? Donc je n'ai pas le nom d'élaborer, mais je pense que c'est l'essentiel de l'influence de Porphyre, c'est sur la question des catégories, avec l'Isagogé, qui est absolument fondamental pour la philo médiévale et la philo arabe aussi, et le commentaire sur les catégories, qui est aussi important, mais qui a eu moins de succès que l'Isagogé. L'Isagogé veut dire introduction, c'est l'introduction aux catégories. Bon, je continue, parce que là, bon, j'en ai encore pour un petit moment, mais je pense que là, ça devient vraiment intéressant. Porphyre a écrit un livre contre les chrétiens, Pros Christianum. Et c'est un ouvrage qu'il a fait connaître partout dans l'Empire et sur lequel on est intervenu. Contre les chrétiens, donc on ne sait pas quand est-ce que ça a été écrit, mais en tout cas ça a été écrit avant 305. Donc Constantin, qui s'est converti au christianisme, dès avant le concile de Nicée, qui est en 325, hein, 20 ans après la mort de Porphyre, avait recommandé la destruction des ouvrages illicites de Porphyre, dont le Contre les chrétiens. Donc, vous, 20 ans après la mort de Porphyre, on fait la chasse aux ouvrages, qui, enfin, aux éditions, enfin, aux copies de Contes des chrétiens pour les détruire. À nouveau, sous Théodose II, en 408, et sous Valentinien, en 448, même décret pour détruire contre les chrétiens, et Justinien en 536. Je vous rappelle que Justinien, c'est celui qui fait fermer l'école d'Athènes en 529, refait la même chose. Donc, Porphyre polémique contre les chrétiens. Je vous ai lu le chapitre 16 de la vie de Plotin contre les gnostiques, et donc je vous renvoie à Tardieu, au commentaire de Tardieu. Donc ça, je n'ai pas besoin d'y revenir, et de toute façon, on n'a pas gardé trace de ce traité. En revanche, on a gardé trace du traité contre les chrétiens. Et donc, il y a beaucoup de travail qui est fait maintenant sur le sujet. Il y a Richard Goulet qui a publié deux tomes chez Brun concernant la principale source de Contes des chrétiens, qui est un moine un peu stupide qui s'appelle Macarius Magnès. Et donc, là, il y a un prof de la Sorbonne, Sébastien Morlet, jeune, qui est en train d'essayer de reconstituer un recueil de témoignages qui déborde Macarius Magnès et qui soit plus intéressant. Et j'espère qu'on réussira à refaire un recueil de témoignages qui soit meilleur que celui de Von Arnack, là, que je cite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est pas Von Arnack que je cite, c'est la traduction du texte et la traduction de Girgenti. Mais donc, au point de départ, c'est Von Arnack.
Qu'est-ce qui reste de...
Ben, il reste, il reste 60-70 pages, mais c'est essentiellement des citations tirées de Macarius Magnès, qui était un moine qui a écrit un traité contre les chrétiens, et c'est pas très intéressant dans la mesure où c'est des critiques sur les points de détail. Porphyre dit c'est pas possible que tel roi juif ait eu telle armée à l'époque, il n'y avait pas assez de population, etc. C'est pas possible qu'il ait eu des chevaux, c'est pas possible qu'il ait fait tel sacrifice dans le temple, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, on a Amélius qui a fait un commentaire, Amélius, donc le condisciple détesté par Porphyre, un commentaire du début de l'Évangile de Jean sur le Logos. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça renvoie à ce qu'on trouve chez Platon sur le Logos. Et moi, je pense que Porphyre devait se situer aussi à ce niveau-là. Mais là, ce qu'on a, c'est essentiellement des critiques sur les points de détail. Et c'est pas très intéressant. Donc, ça, c'est contre les chrétiens. Il nous resterait très peu de choses. Et donc, je vous donne tout simplement un petit résumé de ce sur quoi parle. Donc, concernant l'Ancien Testament, c'est surtout des problèmes de chronologie. Il dit que c'est pas possible que la Genèse se situe 40 000 ans avant nous, ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens, c'est mal calculé. Donc, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de travaux qui ont été faits sur la chronologie. Deuxièmement, des problèmes de conflit d'exégèse. Tel prophète, c'est tel autre, et ça va pas, il y a des problèmes, etc. etc. Et il refuse surtout de considérer l'Ancien Testament comme prophétique. C'est-à-dire que l'Ancien Testament ne peut pas être considéré comme annonçant de nouveau. Ça, il y revient sans cesse là-dessus. Donc ça, c'est pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, donc, il dit un peu ce qu'il disait pour les gnostiques, que les évangélistes sont des falsificateurs. C'est des gens qui racontent n'importe quoi et c'est très facile de montrer. On peut prendre beaucoup de passages des évangiles qui n'ont pas de sens. Le christianisme est une religion récente. Une autre critique qu'on retrouve déjà dans son traité sur les gnostiques. Jésus n'est pas un dieu, mais un homme pieux. Et donc, c'est comme ça qu'Amélius interprète le début de l'évangile de Jean. C'est le Christ est un homme qui se présente comme un dieu, mais ce n'est pas un dieu. Et les chrétiens sont des imposteurs parce qu'ils sont incapables d'assurer le salut des autres. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais je pense que c'est une série d'idées qui sont vraiment très intéressantes. Et pour les chrétiens, je termine avec, en vous lisant un passage que je trouve très intéressant, de la lettre à Marcella. Vous savez, cette veuve qu'il épouse, avec qui il vit pendant 10 mois, et qu'il quitte. Et quand il la quitte, il lui envoie une lettre. Et donc c'est une lettre très intéressante parce que c'est une critique du christianisme. Donc c'est les chapitres 21, 22 et 23. Je vous la lis, on a le temps, dans leur intégralité, parce que je pense que c'est vraiment très intéressant. Et on a là un aspect essentiel de la critique néo-chrétienne du christianisme. C'est vraiment le truc. Il a vraiment frappé au cœur du problème. Donc, chapitre 21. L'âme accueille ou bien les dieux ou bien les démons. Si les dieux sont ses compagnons, elle fera le bien en parole et en acte. Mais donc, c'est l'âme. Donc, si elle recueille le mauvais hôte, elle agit en tout avec perversité. Toutes les fois que tu vois quelqu'un se plaire au mal et le faire, sache qu'il a renié le Dieu en son cœur et qu'il est habité par un mauvais démon. C'est intéressant parce que Porphyre est le premier à parler de mauvais démons. Tous les platoniciens, les démons sont bons, parce que c'est des intermédiaires entre les dieux et les hommes. Et donc, c'est intéressant parce qu'il doit reprendre ça des chrétiens, parce que pour les chrétiens, les mauvais démons, ça permet d'expliquer le mal. Et donc, pourquoi il y a du mal dans le monde? Parce qu'il y a des mauvais démons. Mais Porphyre est obligé d'atténuer sa critique. Donc je continue. Ceux qui reconnaissent que Dieu existe et qu'il administre toutes choses, là c'est une citation des lois de Platon. Parce que, grâce à cette connaissance, dans les lois de Platon, il y a trois types d'athées, ceux qui refusent l'existence de Dieu, ceux qui pensent que Dieu ne dirige pas le monde, et troisièmement, on peut acheter les dieux avec des sacrifices. Donc, ceux qui ne reconnaissent pas que le Dieu existe et qu'il administre toutes choses ont, grâce à cette connaissance, c'est-à-dire grâce à leur croyance, à leur ferme croyance, et donc là, c'est très important parce qu'on retrouve ici Bébayas, Pistéos, c'est la foi chrétienne, pour le privilège de savoir que Dieu est en surtout sa providence et qu'il y a des anges, angeloi, c'est-à-dire le bon et divin démon, qui observent ce que nous faisons et dont il n'a pas moyen de se cacher. Persuadé, Pépès Minoï, qu'il en va bien ainsi, ils se gardent de commettre des fautes dans la vie de tous les jours parce qu'ils ont devant les yeux la vigilance des dieux à laquelle on ne peut se soustraire, et parce qu'ils ont une vie bien rangée, ils apprennent à connaître les dieux et ils sont connus des dieux qu'ils connaissent. En revanche, ceux qui ne croient pas, qui ne croient ni que les dieux existent, ni que l'ensemble des choses est régi par la providence, subissent le châtiment de la justice. Ils croient, persuadés par eux-mêmes ou par les autres, que les dieux n'existent pas et que tout est administré par une révolution privée de raison, c'est-à-dire la révolution des as. S'exposant à un danger indicible, poussés qu'ils sont par une impulsion privée de raison et promis à l'erreur dans la vie de tous les jours, ils font toutes les choses qu'il est interdit de faire, cherchant à détruire l'hypothèse de l'existence des dieux. Les dieux échappent à ces gens en raison de leur ignorance et de leur manque de foi, à Pistias. Et ils ne peuvent ni échapper, ni se cacher des dieux eux-mêmes et à la justice qui est leur compagne. Oui, eux qui ont choisi une vie mauvaise et dissolue parce qu'ils ignorent les dieux, ils sont connus des dieux et la justice qui vient des dieux. Et donc là, on arrive à l'essentiel. Et si on estime honorer les dieux et être persuadé que les dieux existent, tout en négligeant la vertu et la sagesse, on renie les dieux et on leur fait injure. Car une foi irrationnelle, et c'est ça qui reproche aux chrétiens, les chrétiens ont une foi irrationnelle, alors que les platoniciens ont une foi rationnelle, parce que pour les platoniciens, le monde sensible est fabriqué par les logoi, qui sont elles-mêmes les aïdés, c'est-à-dire l'intelligible. Les chrétiens, c'est des gens qui ont une foi, mais à l'égos, irrationnelle. Et si on estime honorer les dieux et être persuadé que les dieux existent, tout en négligeant la vertu et la sagesse, on renie les dieux et on leur fait injure. Car une foi irrationnelle, je le répète encore une fois, allogos pistis, séparée de la rectitude de la vie de tous les jours, ne peut atteindre Dieu. De plus, le culte n'est pas agréé de cette divinité si on n'a pas appris de quelle façon on rend grâce à la divinité à laquelle on rend un culte. Si en effet, parce qu'elle se plaît aux libations, aux prières, cette divinité se laisse fléchir, il ne serait pas juste qu'elle exige en retour de tous un don égal, même si tous ont reçu la même part de destin. Voilà. Donc, on a là une critique vraiment très très forte qui sera répétée par Porphyre. Les chrétiens ont une foi irrationnelle, alors que les platoniciens prétendent avoir une foi qui est rationnelle. Donc, chez les l'homme dans sa vie terrestre est assujetti à la foi, à la croyance, mais cette croyance doit être rationnelle, ce qu'elle n'est pas chez les chrétiens. Bon, le pendant de tout ça, c'est l'intérêt que Porphyre porte aux oracles. Ça nous paraît bizarre, mais c'est très très conséquent. Pour quelle raison? Pour cette raison que si on n'a pas la foi chrétienne, et si on veut avoir des rapports avec les dieux, il faut passer par l'intermédiaire des oracles. Et donc, je vous lis un certain nombre de choses que le père Saffré a expliqué et que j'essaie de développer ici. Donc, je vous renvoie à ce sujet à un traité qui a été fait par Porphyre, qui s'appelle La philosophie tirée des oracles. Encore une fois, l'édition du 19e par un Allemand n'est pas très très bien faite, mais ici vous avez le titre 8, la philosophie tirée des oracles, dans une édition italienne par Ghirienti en 2012. Donc pourquoi les oracles? Donc au deuxième siècle de notre ère, on observe un phénomène que l'on peut qualifier de disparition des oracles. Cette désaffection des oracles traditionnels doit toutefois être interprétée non pas comme une baisse de prestige des oracles, mais comme une modification des besoins auxquels ils sont censés répondre. Les questions que l'on pose aux oracles ne sont plus les mêmes. On ne cherche plus à connaître l'avenir, ni surtout la conduite à tenir dans telle ou telle occasion. Contrat, voyage, mariage, enfantement, etc., etc. Donc, quand on allait à Delphes à l'époque de Platon, on posait des questions: est-ce que je dois me marier, est-ce que je dois faire la guerre, ou est-ce que Socrate est le plus sage, etc. Puis là, l'oracle répondait oui ou non, puis il y avait des gens qui développaient. Donc ça n'est plus ce qu'on cherche au deuxième siècle de notre ère. On veut que le Dieu donne des précisions sur lui-même, sa nature, son action, son mystère, sur le monde, sa constitution, sa structure, et surtout sur le salut de l'âme humaine, en rendant plus facile la remontée vers la divinité. Donc, les oracles sont une façon d'entendre la voix de Dieu. sur des sujets fondamentaux, et notamment le salut de l'âme humaine. Et on voit très bien qu'à cette époque, c'est l'époque où le christianisme gagne du terrain très rapidement, mais que c'était aussi un besoin qui se faisait sentir chez les païens, et notamment chez Porphyre. Certains de ces philosophes qui ont assuré la renaissance du platonisme et le renouveau du pythagorisme, notamment Porphyre au début de la chrétienne, ont favorisé en philosophie ce retour à l'autorité des dieux. Et donc là, j'ai des citations de Théon, de Smyrne, de Cels et de Maxime de Tyr. Et on retrouve ça aussi chez Plutarque. Les traités delphiques de Plutarque, c'est vraiment ce que ça explique. Ça explique que on ne peut plus continuer à considérer les oracles comme c'était le cas dans l'Antiquité, mais qu'on doit considérer que les oracles expriment la pensée des dieux. On se met alors à fabriquer des oracles d'un nouveau type, les plus célèbres chez les pythagoriciens étant les oracles chaldaïques. Et Porphyre est l'un des premiers à introduire les oracles chaldaïques. Je vous renvoie à la réédition de Lévy par Tardieu, la deuxième ou troisième édition, celle de 2011, où il y a un article de Ado sur les Porphyre et les oracles chaldaïques. Et il y a une énorme bibliographie. Donc on se met à fabriquer des oracles d'un nouveau type, les plus célèbres chez les platoniciens étant les oracles chaldaïques, et à réunir les ensembles d'oracles comme les oracles sibyllins. Mais Porphyre réunit des oracles dans la philosophie tirée des oracles. Pour lui, la philosophie vient, est oraculaire, parce que c'est une pensée qui vient directement des dieux. Donc vous voyez que c'est quand même, tout ça se tient, c'est-à-dire que la réaction contre les chrétiens doit être associée à la philosophie tirée des oracles, à l'introduction des oracles chaldaïques, et dans la vie de Platon, c'est le chapitre 20 ou 21
sur, ah oui, pour l'oracle.
Oui, 20, je crois.
21,
je crois. Oui, parce que c'est Amélius qui avait demandé où était l'âme de Platon. Alors, il reçoit un oracle en 50 vers où on décrit Platon au milieu des dieux avec Pythagore, Platon et tout ça. Et donc, c'est carrément un oracle, se présenter comme un oracle. Et c'est une allégorie du naufrage d'Ulysse dans l'Odyssée. Bon, je termine rapidement, là, je suis désolé. Donc, avec l'édition de Platon. Donc, je vous renvoie à un article du Père Saffré dans le deuxième tome de la vie de Platon. Pourquoi Porphyre a-t-il édité Platon? Donc, une réponse provisoire. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce que le Père Saffré dit, mais c'est un article qui est vraiment très intéressant. Donc, on a 54 traités. En fait, c'est pas vrai, parce que Porphyre a découpé certains traités de façon aléatoire. Mais ce qui était intéressant dans les Énéades, donc c'est 6 fois 9, donc 9 Énéades, et il faut savoir qu'à cette époque, les textes n'étaient plus écrits sur des rouleaux, mais sur des codex, c'est-à-dire sur des morceaux de parchemin, qui étaient des peaux de bête, et qui étaient réunis en cahiers. Donc, l'édition des Énéades comprenait 6 Énéades, 6 fois 9 traités, réunis en 3 cahiers. Donc, dans le premier cahier, on trouvait un portrait de Platon, la vie de Platon, et les Énéades 1 qui portent sur l'éthique, 2 qui portent sur la